20h02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale en ce mardi 31 octobre. Évidemment, journée d'Halloween. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire joyeux Halloween à tous ceux qui le fêtent. Voilà, ça va être une bonne soirée. Mais pour ceux qui veulent rester quand même dans l'univers du sport, il y a évidemment votre émission Génération Sport. Autour de moi, il y a donc trois chroniqueurs de talent qui se sont très bien débrouillés sans moi la semaine dernière. À ma gauche, Faustin, qui va passer du côté des chroniqueurs. Comment ça, Faustin ? Attends, excuse-moi, j'ai oublié ton micro. C'est le temps de gauche, je m'y retrouve.
Du coup, je disais, salut Alex, salut tout le monde. Ça va très bien. Ouais. Une fois de plus, pareil, moi, j'ai de voir. Me réhabituer à ne plus prendre la parole tout le temps et à vous lancer sur les sujets.
Ah, il faut qu'on trouve notre rythme, il faut qu'on alterne. C'est voilà, c'est un rythme à trouver.
Exactement.
Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va ?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah moi ça va. Ce week-end, on a gagné au penalty, donc direction 5e tour de Gambard. Et c'est
Gambard est là pour
ouais, ce Gambard est là. Oui. On joue, c'est la Coupe de France des jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on joue Le Mans ce week-end.
T'as l'âge de jouer
Ouais, bah oui, c'est U16, U17, U18, c'est tout le lycée. Enfin, tout c'est au lycée. Et donc, on joue Le Mans ce week-end qui est en national. Donc
ça va être pas mal.
Ouais,
ça
voilà.
va être pas
mal. Il va falloir faire un exploit pour passer au prochain
tour. Pourquoi pas ? Et pourquoi peut-être qu'on pourra le mettre dans les actus peut-être la semaine prochaine. Ça pourrait être intéressant. Également avec nous Cédric. Salut Cédric. Comment ça va ?
Eh ben salut à tous. Écoute, ça va super bien.
Un très bon week-end ?
Oui et non. On va dire, il y a eu du sport, il y a eu des choses intéressantes, mais il y a beaucoup de choses aussi tristes ce week-end. Si on fait le bilan, le baromètre de l'humeur du sport, je pense qu'on est plus vers le bas que vers le haut.
Exactement. Tu as passé une bonne soirée d'Halloween en prévision ?
Normalement, oui.
Normalement, oui. Ça va fêter un petit peu.
Ça va fêter ça juste après l'émission.
Très bien. Au programme de cette émission, évidemment, vous en avez à l'habitude, les actualités locales et internationales. Mais surtout, l'événement principal, c'est la reçue dans les studios du club de l'UFAP 49 via Mathieu Leray, responsable partenaire donc au sein du club. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Ça va bien ?
Ça va, super, merci de votre invitation.
C'est pas ta première fois dans le studio, mais c'est ta première fois au micro.
Exactement.
Il me semble,
c'est ça. Ouais, c'est une première, un baptême.
Donc tu nous feras un peu découvrir les facettes de ton métier au sein du mm-hmm. club, et puis on parlera avec Cédric notamment de l'actu évidemment autour du club. C'est la première donc émission, j'ai envie de dire officielle donc du partenariat de cette saison. Et puis il y en aura d'autres. Et on essaiera donc de recevoir des joueuses dans les mois à venir. Avant donc la pause musicale et l'interview juste après, on va passer donc aux actualités locales sans plus tarder avec le foot sur une série de 5 victoires consécutives en Ligue 2. Le SCO d'Angers se déplaçait hier à Geoffroy-Guichard dans le Chaudron pour y défier une équipe de Saint-Etienne qui vise la remontée en Ligue 1. Au cœur d'une première période animée, Loïs Diony a manqué à deux reprises le coche pour permettre au SCO de virer en tête à la pause. Malheureusement, les Verts ne vont pas se rater pour ouvrir le score juste après cette mi-temps avec le but de la tête sur corner de Sissoko. 8 minutes plus tard, c'est au tour du défenseur Petro de se jouer de la défense angevine et d'inscrire le but du break. Les Angevins ne reviendront pas et concéderont donc leur troisième défaite de la saison. Au classement, les Noirs et Blancs se font dépasser par leurs adversaires du jour mais restent quand même sur la dernière marche du podium. Malgré tout, pour se relancer, les joueurs d'Alexandre Dujeu recevront Valenciennes samedi prochain à 19h à Raymond Coppa. Messieurs, c'était enfin c'est plutôt une bonne chose pour enfin une bonne chose non mais comment vous voyez cette cette défaite parce qu'il y a quand même eu des belles actions enfin voilà il y a eu quand même du jeu proposé par Angers on n'a pas senti une équipe Saint-Étienne qui a dominé toute la rencontre. Et on a senti qu'on faisait jouer avec une équipe qui vise clairement la, la Ligue.
Non, oui, je suis allé un petit peu voir les avis des supporters, enfin en tout cas des réseaux sociaux. Pour une fois, c'est vrai que d'habitude, quand le SCO perd, souvent c'est les commentaires, c'est match insipide, enfin ils ont rien fait, ça joue pas. Là, que ce soit des supporters stéphanois ou scoïstes, ça soulignait que, oui, qu'il y avait eu un beau match, et que du coup il fallait deux équipes pour avoir un beau match, donc... c'est plutôt intéressant d'un point de vue spectacle.
Ouais.
Après, voilà, on retombe peut-être dans nos travers avec une seconde mi-temps un peu, peu plus faible que la première. Mais après, j'ai envie de dire, perdre 2-0 contre Saint-Étienne en étant sur le podium.
C'est pas dramatique.
C'est pas dramatique en soi, sachant que Saint-Étienne a une année de plus en Ligue 2 et connaît un peu plus les pièges de la Ligue 2.
Voilà. Et qui joue à domicile aussi.
Oui, en plus, oui. Donc, puis pareil, il y a une petite chose qui a peut-être joué, c'est que les joueurs du SCO sont pas habitués aussi à jouer les matchs le lundi. Ça peut jouer
c'est
aussi.
Premier, ouais, c'est ça premier
peut, ça peut y jouer aussi un petit peu.
Ouais, je sais pas si.
En termes de préparation.
Ça fait différence non plus.
Oui, non, voilà, non, mais tu vois, ça peut changer les habitudes. Ouais.
Surtout que
de l'organisme, si tu veux, quand t'es habitué à jouer soit le vendredi, soit le samedi.
Oui.
Ton corps s'habitue et au bout d'un moment, bon.
Là, mais voilà.
Début de saison, mais bon, en tout cas.
Il y a ce match donc prochain contre Valenciennes, mais oui c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir sur notamment les 5 victoires et plus cette défaite que voir que ça propose du jeu.
C'est ça. Ouais.
J'ai envie de dire Alexandre propose du jeu, mais
on n'est pas encore assez intime.
C'est ça. Ouais, petit jeu mot que je vous propose, c'est gratos. Mais les gars, est-ce que vous avez des petites réactions sur le SCO?
Je dirais que c'est quand même dommage parce que ça nous coupe dans une belle série où on était sur 5 victoires d'affilée.
Ouais.
Ça faisait depuis 92 que c'était pas arrivé. C'est dommage, même si c'est sur un beau match, on se fait pas non plus, on prend pas une grande claque pour nous remettre les pieds sur terre. Mais
on a vu on a vu des points positifs, mais on a vu aussi des failles parce que le but du défenseur qui vraiment du coup dribble littéralement dans la surface et qui, face à une défense un peu aux aguets. Et attends, je crois que du coup c'est le troisième but de Fofana qui prend entre les jambes de la saison.
Ça va commencer. C'est un peu le côté Fofana qui serait un peu l'élément faible de la.
Ouais, je sais pas si c'est non parce qu'il c'est quand même un bon gardien. Il fait un bel arrêt en première période, mais bon.
Faut acheter le grillage.
Mais oui, il faut au moins qu'il regarde ses jambes parce que c'est il y a peut-être un truc à faire. Bon, voilà pour le score.
Après, il y a rien d'alarmant sachant que.
Oui, bien sûr.
Le prochain match de Saint-Étienne, c'est Laval.
Ah, intéressant ça. Du coup, les deux premiers qui s'affrontent.
Ils ont déjà joué contre Laval.
Ils ont déjà joué
la semaine dernière où ils les ont battus, justement.
Non, c'est quoi le match?
C'est Laval qui a perdu. J'en sais rien.
Parce qu'il y a. Enfin, apparemment, ça va bien compter aussi pour.
Bon, on verra ça. En tout cas, le SCO jouera Valenciennes, donc samedi, 19h à domicile pour ceux qui veulent aller les voir. Faustin, on va passer au basket maintenant.
Ouais.
Avec donc les résultats de nos clubs locaux. Par qui tu commences?
Je vais démarrer par l'EAB qui ont connu une défaite 95 à 77 sur le parquet clermontois, une grosse défaite qui leur fait être à 2 défaites et 1 victoire donc en ce début de saison, c'est pas dingue pour commencer et ils jouent en ce moment même contre Châlons-Reims à Jean-Bouin, il y a actuellement 15 à 10 pour les joueurs de Châlons-Reims. Voilà pour ce qui est de l'EAB. Maintenant, l'UFAB, après la frustration de la semaine dernière en Europe contre Galatasaray, les joueuses d'Aurélie Bonan se sont très bien rattrapées en Roumanie contre Constanta en l'emportant 68 à 48. Elles ont ensuite été défaites à Charnay en championnat sur le score de 70 à 66 et elles recevront demain l'équipe lituanienne de Kibirkstis. Ce sera le premier match retour en Europe pour nos Angevines.
Et puis enfin Cholet.
Ouais, Cholet qui ont joué 2 matchs et ça fait 2 victoires pour les Choletais. La première d'un seul petit point en Ligue des Champions face à Riga sur le score de 74 à 73 et la seconde en championnat dans un match une nouvelle fois très serré. C'était contre Nanterre sur le score de 70 à 63.
Donc Cholet qui informe et sur le match de face à Riga, Et je sais pas si t'as vu, mais il s'est passé un truc complètement fou. Il y a eu une erreur d'affichage de score. Et du coup, ça a influencé sur
la manière dont on joue.
Oui, un peu, parce que forcément,
et en fin de match, le temps, etc. Au lieu de...
En fait, je crois que ouais, ils ont joué une prolongation, alors que, enfin voilà, c'était. Ah, oui.
Ils se sont rendus compte à la fin du match, en effet, qu'il y avait finalement pas égalité, mais en fin de match.
C'est ça. Alors qu'ils allaient démarrer la prolongation.
C'est dommage.
Enfin, ça n'avait
un peu le temps.
Et donc ouais, un vrai imbroglio. Et donc, Cholet est en forme.
Ça, c'est deux victoires d'affilée.
Et au classement, du coup, c'est.
Au classement, de mémoire, ils sont milieu de classement, ils sont genre 6-7e. Okay, bon. Pour l'instant, c'est play-off.
Et puis pour l'UFAB, on reviendra évidemment avec Mathieu plus tard dans l'émission sur toute l'actualité autour du club. Pas de match pour le SCO en balle ce week-end, puisque le match prévu contre Villeurbanne vendredi à la salle du Hara a été annulé à cause du forfait général de l'équipe rodanienne. Cette triste nouvelle pourrait avoir quand même des conséquences sur la lutte pour le maintien pour le SCO, puisqu'il n'y aurait potentiellement à déterminer au fil de la saison qu'une seule place de relégué. Justement à la fin de cette saison, affaire à suivre. Et pour le prochain match donc des joueurs d'Issamtej, il faudra attendre le vendredi 10 novembre prochain avec un déplacement du côté de Valence. On va passer maintenant au hockey sur glace. Invaincu depuis 7 rencontres et leur déculotté reçu contre Gap, les Ducs d'Angers abordaient un week-end à 2 matchs face à Cergy Pontoise vendredi et Grenoble dimanche. Face aux Jokers, les Angevins ont pu enchaîner avec une 8e victoire de suite en s'imposant 3-1. Plus que jamais leader de Ligue Magnus, les Ducs affrontaient donc dimanche les champions de France Grenoble. Au terme d'une rencontre à rebondissement, les joueurs de Jason O'Leary s'inclineront finalement 4-3 face à leurs rivaux. Pas de match donc ce soir pour les Angevins, mais ils vont attendre quand même le résultat d'un match très attendu entre ces deux poursuivants, donc Rouen et Grenoble. Et ça permettra peut-être de conserver cette place, ou de la perdre, cette place de leader. Donc c'est vrai que c'est quand même positif ce début de saison.
Ouais, parce qu'il y a aussi eu le match contre Cholet qui en Coupe de France. Il y en a aussi qui a permis de se rassurer, de continuer la compétition. Après comme tout, hein, ça va très vite au hockey. C'est pas une si grosse défaite que ça hein, au final. Un but d'écart. On sait que c'est toujours difficile d'aller jouer à Grenoble, ne serait-ce que pour l'arbitrage, des choses comme ça. C'est toujours la même chose. Il y a des fautes flagrantes qui sont pas forcément sifflées. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas que avec les matchs d'Angers, hein, c'est généralement avec tous les clubs qui vont là-bas. Donc, contrairement, quand on joue contre Rouen où les écarts sont généralement plus élevés, là, en tout cas, on a minimiser, je dirais.
Limiter la case,
voilà, c'est bon. C'est des points qui partent, mais bon, l'important, c'est d'être le plus haut dans le classement la veille du tirage des playoffs. Hein. C'est un marathon, de toute façon. Voilà.
De toute façon, on verra sur la fin de saison, évidemment.
Ce qui rassure, c'est que les joueurs sont quand même en forme.
Mais c'est vrai que par le passé, sur les années précédentes où on suivait un peu les Ducs, ils ont rarement été leaders de phase régulière, en tout cas.
Aussi vite et aussi longtemps, ouais, je pense que c'est
quand même assez rare.
Après, là, ils ont deux matchs d'avance.
Rouen, on le précise.
Si Rouen gagne, ils repassent à égalité.
Exactement. Mais ils jouent Grenoble ce soir, donc tout est possible.
Après, par exemple, comparé à la saison d'avant, on jouait l'Europe, donc ça pouvait expliquer aussi le fait qu'on était moins, enfin, en termes d'avancement, on était moins fort que cette année. Là, cette année, on a juste la Coupe de France à gérer et le championnat.
Pas de Coupe d'Europe hein, pour les Ducs d'Angers. Alors, il s'est passé des choses aussi concernant le sport à Angers ce week-end, puisque c'était les championnats de France de natation. Donc dans la piscine Jean Bouin, alors petit bassin évidemment, et il y avait quelques personnalités connues hein, de la natation française, notamment Charles Bonnet qui s'est imposé en 100 mètres papillon notamment, et puis Maxime Grousset qui lui s'est imposé en 100 mètres nage libre. Donc voilà, je sais pas si les gars vous avez pu regarder, non, suivre un peu.
J'ai vu quelques résumés, parce que c'était retransmis des fois sur Bein.
Ouais.
Donc, je vais voir quelque chose. Je n'y connais pas trop en natation, j'avoue, mais bon, apparemment, il y a eu des choses sympas.
C'était un événement qui s'est passé à Angers. Voilà un petit peu pour le sport local. On va passer maintenant à l'actualité internationale, en commençant par le football, l'actualité du ballon rond, hein, qui s'est plus passé en dehors des rectangles verts sur ces derniers jours. Dimanche, la Ligue 1 n'était clairement pas à la fête, avec un véritable drame qui s'est produit en amont de l'Olympico, qui allait opposer deux équipes en manque de points. Aux abords du stade Vélodrome, certains supporters marseillais ont caillassé le bus des joueurs et du staff lyonnais, blessant ainsi au visage Fabio Grosso, avec également son adjoint Raffaele Longo. Après plusieurs dizaines de minutes de tergiversation, le match sera finalement reporté, étant donné l'état physique du technicien lyonnais, qui sera recousu avec 12 points de suture. Bon, c'est des événements, évidemment, les gars, qu'on n'aime pas du tout voir au sein de... Enfin, dans le football, évidemment, puisque là, c'est clairement une attaque qui est visée contre Fabio Grosso, plus ou moins. Mais c'est vrai que
contre l'institution lyonnaise.
Hein, oui, c'est ça.
En gros, c'est pas le club et les supporters, parce qu'il y a quand même des supporters.
Loin de moi l'idée, évidemment, de minimiser la violence et les faits qui ont été faits, mais on va dire que c'est un caillassage qui a été qui a mal tourné, entre guillemets, parce que bon, ça peut arriver. Oui. Je l'encourage pas, évidemment.
C'est totalement débile. À chaque déplacement.
C'est complètement débile. Mais, là, en fait, quelque part, on a attendu qu'il y ait vraiment un blessé pour agir et pour annuler un match après le caillassage d'une équipe, quand même. C'est vrai que c'est assez grave. Je sais pas ce que vous en pensez.
J'ai vu des joueurs comme Mika après ça, qui disaient qu'eux, ils étaient prêts à jouer. Ouais. Ils avaient envie de jouer. Mais, c'est plutôt la direction qui a dit non. Peut-être aussi pour
les médecins notamment qui disaient que Fabio Grosso ne pouvait pas tenir une conversation.
Oui. Ah oui, d'accord.
Il y avait un soupçon de commotion, il y avait
Après, là-dessus, ça n'a pas été clair aussi en termes de com. On ne sait pas trop si les joueurs.
Il y avait réellement Textor qui annonçait qu'il voulait.
Lui, en fait, il a fait son propre truc. De son côté, en fait, c'est pour ça quand il...
Apparemment, il y aurait aussi un problème de traduction sur son intervention après.
Ouais,
mais
même la décision d'aller parler aux médias pour expliquer la situation, c'est lui-même qui l'a pris sans consulter. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que il y a eu une préparation en amont, réunion avec les supporters des deux équipes, avec la préfecture. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on sait que c'est un match à haut risque. Alors, il y a un système de classification qui va de 0 à 5. Là, on était à 4. On sait que c'est un match, faut sécuriser un maximum. Et quand on voit les images du bus qui arrivent, il y a quasiment personne pour les sécuriser. Ça réagit pas. Enfin, c'est impressionnant. Et c'est encore pire pour le...
Et puis, tout le monde se renvoie la balle. Alors, on va pas ici faire le débat de à qui la faute, mais... Tout le monde se renvoie la balle entre les clubs qui disent que c'est à cause de la préfecture, tout ça, et puis le ministre de l'Intérieur qui dit que c'est à cause des clubs et voilà. Donc tout le monde se renvoie la balle et en fait on ne sait pas trop comment pallier à ces problèmes-là, mais évidemment c'est très condamnable à ce genre d'action.
Ce qui est aussi dommage, c'est que il y avait déjà ça qui est très très condamnable, et derrière mais dans les deux côtés,
Les supporters lyonnais,
supporters marseillais aussi, parce que de toute façon il y a enquête sur les deux. Donc on a eu le même cas d'insultes comme pour le OMPSG. Là, apparemment la LFP va s'en occuper. Et il y a aussi tout ce qui est lié au racisme,
sur certains supporters lyonnais.
Voilà,
l'Olympique lyonnais a dit qu'ils allaient s'occuper un petit peu, essayer de reconnaître et faire les bonnes actions. Donc on attend de voir si ça va être vraiment mis
Le problème, c'est que ça fait un moment que ça traîne dans beaucoup de clubs.
C'était une triste soirée. Ouais. Triste soirée. Il y avait une soirée un peu plus sympathique, ça dépend de comment on se place, mais c'était hier à Paris, les tenues de gala étaient de sortie pour la cérémonie de remise du trophée du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet. Pas de surprise évidemment pour le trophée principal, c'est bien le champion du monde Lionel Messi qui a remporté donc son 8e Ballon d'Or. Après les gars, on discutera peut-être un petit peu. Chez les féminines, la joueuse espagnole du FC Barcelone, Aitana Bonmati, succède à sa coéquipière Alexia Putellas grâce à ses assez sacre en Ligue des Champions et en Coupe du Monde notamment. Et puis pour le trophée Yashin du meilleur gardien, c'est Emiliano Martinez qui est récompensé par également sa belle Coupe du Monde 2022. Et enfin, l'Anglais Jude Bellingham a quant à lui remporté le trophée Copa du meilleur jeune. Sur le débat, Messi et son 8e Ballon d'Or. Alors, évidemment, ça fait beaucoup parler tout le temps. De toute façon, à chaque année, même si l'année dernière il y avait peut-être moins de débats. Du coup, messieurs, quel est votre avis? En tout cas, sur le prix en lui-même et la façon dont il a été décerné, on va pas revenir dessus. J'aimerais avoir juste vos avis, vous, pour purement footballistique, si vous étiez les journalistes qui avaient voté, quel aurait été votre classement, votre podium ou votre top 5, si jamais l'envie vous prend de développer. Parce qu'il y a des Messi, il y a des anti-Messi, je vois autour de la table, donc je commence par qui? Allez, peut-être Cédric?
Bah moi, oui, clairement, je m'étais pas Messi. Enfin, sa Coupe du Monde est pas terrible. C'est que débute sur penalty.
Oh, pas que, quand même. Oh, faut être honnête. Pas que.
Il crée beaucoup de jeux, quand même. Ouais, avec l'équipe d'Argentine.
Et puis le but contre le Mexique.
Il crée des jeux, enfin.
Il y a le but contre le Mexique qui est quand même hyper important.
Oui. Ouais, mais.
Et qui est très beau.
Il fait pas une grande saison.
Là, alors, sur la saison, je te rejoins, oui, mais.
Donc, le Ballon d'Or, c'est quoi? En plus, maintenant, c'est en période civique.
Non, l'inverse.
C'est en saison, maintenant. C'est en saison. Elle est liée au PSG. Au PSG, on peut pas dire qu'il a brillé.
Non.
Que ce soit avant un petit peu la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, c'était, bon, de toute façon, je pars à Miami.
Ouais.
Et à côté, t'as un Norvégien qui aura, bien sûr, quasiment aucune chance de gagner une Coupe du Monde, mais à côté, qui a tout raflé en Angleterre, qui gagne la Coupe d'Europe, qui fait le taf pour son équipe.
Bon, t'aurais mis Haaland, quoi.
Moi, je mettais Haaland.
Tu mettais Haaland, est-ce que tu mettais quand même sur le podium Messi, quand même? Oui? Même pas?
Je sais pas. Franchement, je le mets pas dans le...
Mbappé top 3?
Mbappé, ouais, on peut le mettre dans le top 3.
D'ailleurs, oui, pour nos auditeurs, effectivement, le top 3, c'est justement Messi, Haaland, Mbappé dans
cette ordre. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, je le mets pas Ballon d'Or.
Ouais.
Mais, non, après, mais le problème se pose aussi pour le titre des gardiens.
Oui, on reviendra peut-être pas dessus trop longtemps parce qu'on est un peu pressé, mais oui, ça faisait polémique que Emilio Martinez ait gagné devant Bounou, alors que Bounou est devant lui au classement du Ballon d'Or. On va essayer de contredire un petit peu. Faustin, quoi, tu es team Messi.
Un peu pro Messi, mais.
C'est ça.
Mais bon, je vais quand même avouer que, à part la Coupe du Monde, qui, pour moi, il a fait une bonne Coupe du Monde, mine de rien. Mais,
meilleur joueur, on le rappelle. Et lui, meilleur joueur.
Certains diront que c'est pas mérité, mais bon, voilà. C'est vrai que peut-être que Haaland le méritait plus, parce que à part la Coupe du Monde, Messi, en effet, il n'a pas fait non plus grand chose. Il a quand même remporté la Ligue 1, il a remporté une autre coupe avec l'Argentine, mais il n'a pas fait non plus une trop mauvaise saison comparée surtout à celle qu'il a fait la saison dernière, où il a mis plus de buts, fait plus de passes dé. Certes, Haaland, il met 50
buts.
Je crois que c'est 57 buts en 58 matchs, un truc comme ça. 56.
Record de buts en
pète tous les scores, hein. Il y a pas photo, mais je pense que Haaland, une année sur quatre, il remportera pas le Ballon d'Or parce qu'il y a la Coupe du Monde.
Ouais. Ou l'Euro, parce qu'il y a les années Euro, là. Ouais. Ça peut être pareil cette année.
C'est vrai.
Mais toi, donc, ça aurait été Messi, Haaland, Mbappé?
J'aurais quand même mis, en vrai, objectivement, j'aurais mis Haaland devant.
Ok.
Messi en deux.
Et Clément, pareil, t'es un peu de l'avis de Cédric?
Ouais, je pense que pour moi, Messi, Mbappé fait la Coupe du Monde que Messi fait, on dit que Mbappé a pas réussi sa Coupe du Monde, mais comme c'est Messi et comme il propose du jeu, bon, après là je suis peut-être un peu dur dans mes propos, mais je trouve que Messi, faut faire vraiment une saison bien au-dessus de celle qu'il fait pour être prétendant au Ballon d'Or. Par exemple, si Messi fait la saison d'Mbappé, il aura le Ballon d'Or mais fois 1000, mais Mbappé lui doit faire une saison bien plus importante que celle de Messi pour être et pareil pour Haaland. Enfin, faut vraiment qu'il fasse des exploits.
Ouais, en gros que le nom a joué beaucoup.
Bien sûr.
L'image effectivement, parce qu'il se cupe aussi, se comprend dans le vote des journalistes, hein, qui sont qui peut être biaisé parce que ça reste un vote et un vote reste évidemment
on aura le détail des votes. Je crois que c'est samedi dans France Football.
Bah, quand il va avoir ça va sortir. Bah,
le détail.
Ouais, je sais pas, je crois que ça sort le mercredi, je crois.
Ouais, mais je crois que pour le Ballon d'Or, c'était annoncé hier pendant la cérémonie, je crois.
Bon, pour finir sur le Ballon d'Or, je trouve que, pour moi, ça a plus trop d'importance, le trophée, parce que, par exemple, tu vois Griezmann qui finit 21e, enfin, moi, je trouve désolant, voilà. Franchement.
Je te le dis parce que t'es nouveau, mais ce débat-là, on l'a chaque année, on en parle, donc, c'était pareil avec Max. Le Ballon d'Or, c'est trop nul maintenant. Et puis hier soir, toute la soirée, il m'a envoyé des messages pour me dire c'est scandale.
C'est plus de la com que de. Moi.
Après, puis ça nous intéresse, tu vois.
Heureusement qu'il y avait Ishospeed pour animer la soirée. Ça a bien fait rire.
De quoi?
Heureusement qu'il y avait Ishospeed.
Ah oui, Speed, ouais.
Ouais, enfin.
Le YouTuber. Enfin, le.
J'ai cru que c'était une réunion TikTok, en fait.
Ouais, il y avait beaucoup de. Oui. Ouais, oui. Bref, voilà un petit peu pour le football. On va essayer d'avancer maintenant avec Faustin. Tu vas nous faire un petit point sur le basket et la NBA, puisque alors de mémoire, oui,
ça a repris.
Ça a repris, oui, non, ça je sais. Mais est-ce que la semaine dernière, Wembanyama avait joué?
Non, pas encore. Donc, je sens ça fait plus d'une semaine. Avec ça.
Tu vas nous débriefer un peu justement.
Avec plaisir. Du coup, il a joué ses trois premiers matchs Wemby en NBA et il démarre à mon avis d'une très bonne manière avec un premier match dans lequel il a eu d'abord un problème de faute où il était rapidement à 5 fautes, il n'a pas pu trop jouer du coup, mais ça ne l'a pas empêché de scorer 15 points dans ce match avec notamment un gros dernier carton. Il a réitéré lors de son deuxième match en sortant à nouveau un quatrième carton de folie où il était très clutch avec notamment un panier dans les 20 dernières secondes ramenant son équipe à égalité et leur permettant d'aller en prolongation décrochant ainsi sa première victoire en NBA. Son troisième match a été peut-être un peu moins concluant, où il affrontait une équipe plus forte son équipe, donc les Spurs, n'ont pas été en rythme et donc il a eu du mal lui aussi à se mettre en rythme et au final ils ont pris une grosse défaite de 40 points, mais ça lui apprend des choses, ça le fait mûrir et c'est ce qu'il faut de toute façon et c'est ce qui va arriver tout au long de l'année avec son équipe qui est quand même assez faible.
Ouais. Ah ouais, autour tu te rends compte que c'est
Ouais, les Spurs c'est ce qu'on s'attendait.
Et les playoffs du coup ça va pas être.
Honnêtement j'y crois, je pense, mais ça risque d'être compliqué.
Peut-être accrocher le play-in.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est s'ils vont au play-off, c'est par le play-in.
Mais après. Et ce sera grâce à Wemba. Wemby,
oui, tout à fait.
Il disait que surtout les défenses, vu qu'il n'y avait pas d'autres éléments forts dans l'équipe des Spurs, elles se concentraient principalement sur Wembanyama et du coup c'était plus compliqué.
Forcément.
Leur meilleur défenseur.
Mais il a l'air en forme en tout cas.
Ouais.
Physiquement, il a l'air beaucoup plus musclé que.
Il est tout élastique là, comme on avait pu le voir au début de la saison.
À Boulogne. Merci pour ce petit point basket, Faustin. On va parler maintenant un petit peu de trois autres infos. On va commencer par le rugby samedi soir. Normalement, ça devait être un soir de fête, un soir de première étoile pour rugby français. Mais comme vous le savez, l'histoire a été tragique avec nos Bleus et la finale de Coupe du Monde opposait donc la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud, au Stade de France. Malgré un carton rouge néo-zélandais et un avantage pris tôt dans le match.
Deux cartons jaunes aussi.
Oui, exactement. Les Sud-Africains auront douté quand même jusqu'au bout, mais ont fini par donc décrocher leur troisième titre de champion du monde de leur histoire avec un court succès, 12-11 et un seul essai quand même dans cette finale. On va parler maintenant de tennis puisque ce lundi se lançait le très attendu Masters 1000 de Paris à l'Accor Hotel Arena. On attendait beaucoup nos joueurs français, mais ces derniers nous ont une nouvelle fois très déçus entre la journée d'hier et d'aujourd'hui. Sur les 8 engagés, 7 sont déjà sortis, donc notamment aussi Gaël Monfils qui vient tout juste, ça vient de se faire, de perdre en 3-7, 4-6, 7-6, 7-5 contre le 21e mondial Cerundolo, l'Argentin. Et donc le dernier rescapé, c'est donc Hugo Humbert qui a battu tout à l'heure l'Américain Jairon, je sais pas comment on prononce, 6-4, 6-3, avant qu'il joue donc Zverev au prochain tour. Donc ça va être très compliqué ce Masters 1000 sans Français. C'est un tournoi qui ne nous reste pas forcément. Ce tournoi de Paris-Bercy.
Oui, qui pourrait être en plus la dernière édition.
Exactement, puisqu'il va pouvoir peut-être être délocalisé. Alors, je ne sais pas où, mais ça parle en tout cas de quitter Bercy. Puis un petit dernier point Formule 1. Si la saison de Formule 1 a clairement perdu son intérêt, les Grands Prix ne s'arrêtent pas pour autant avec ce week-end le GP du Mexique. À Mexico, le local Sergio Pérez était attendu, mais c'est finalement Max Verstappen qui remporte sa 16e course de la saison devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. C'est vrai que t'as pas regardé le Grand Prix.
Si, si,
si, tu l'as regardé quand même.
J'étais en live réac.
Ok, très bien. Et du coup,
bah pour une fois, on va dire merci les le drapeau rouge, ça a amené quand même de l'action au deuxième redémarrage. Après, bon, c'est comme d'hab, hein, Verstappen, une fois qu'il est devant, bien que c'était un peu plus compliqué quand même, mais ça roule bien. Fait notable, cette fois-ci, il n'y a pas eu de déclassement avec des disqualifications. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement un problème autre que les deux qui avaient été condamnés la dernière fois. Mais on va enchaîner sur le Grand Prix du Brésil dès ce week-end. Et après, bah, on va aller sur un Grand Prix où là... Ça va être du Grand Prix bling bling, hein, Las Vegas, de nuit. Ça, j'ai un petit peu peur que ce soit pas un grand prix, et surtout avec tout ce qui va être autour. Les pilotes, je sais pas s'ils vont avoir vraiment la tête à conduire avec tous les événements qu'on leur a prévus à côté.
Ouais.
Tournoi de golf contre des golfeurs professionnels. Enfin,
oula, bizarre.
C'est ouais. Bon, bah, il y a de l'argent à se faire. Hein, et on est à Las Vegas, donc c'est.
Bon, on verra.
C'est la logique,
évidemment pour. Pour la Formule 1, même si on connaît déjà l'identité du champion du monde de la saison.
Ouais, mais il y a toujours la deuxième place.
Ouais, toujours intéressant.
Qui est indéterminée.
Évidemment. On va passer à la pause musicale et puis après on se retrouve juste après avec notre invité Mathieu, avec qui on parlera du club de l'UFAP 49. On s'écoute tout de suite Giorgio et PLK sur le titre Quand tout s'enflamme et on se retrouve juste après. C'était le générique, évidemment.
Quoi, c'est déjà fini?
Non, c'est pas encore fini. On va lancer la musique et puis on se retrouve juste après. Oui, ça va se lancer, ça va se lancer.
C'est pour éviter qu'il y ait un plan.
Exactement. Bon, allez, c'est parti.
Pour noyer l'amertume, on sent le CR quand Paris devient désert et que la galère tue. T'accélères, la vie passe trop vite au final. Pour perdre du temps en cellule ou dans une chambre d'hôpital. Laisse-moi faire ma zig, je suis pas dans ton copinage. J'ai des gars à l'asile qui reverront plus jamais un coquillage. M'en sortir et voir mon copilote dans le corbillard. Marquer mon époque comme Drogba en Côte d'Ivoire. J'écoute Oxmo, j'écoute Pop Smoke. T'écoutes mon dernier titre, tu me dis que c'est trop chaud. Mais rien que ça boycotte, c'est tout pour la famille, tout pour la déterre. Petit, laisse-les parler, ils parleront jamais des gens qu'il y a derrière. Et vas-y, fin d'eux, c'est mort pour les ingrats. Protégé par Dieu, je peux assurer les fins de mort. Quand je pense à ma vie, c'est abusé, je suis peut-être miraculé. Comme Santa Maria de Guadalupe. Mes rêves m'accompagnent, les yeux ouverts, c'est classique. Je veux rouler sur l'or, pas mettre de la merde sur mes ASICS. C'est simple et basique, je viens de là où si tu payes pas, tu prends ton tarif. Demande à El Aziz.
J'ai grandi dans ma tête. J'ai perdu dans la fête, j'ai grandi dans ma tête. J'ai tout dit dans la tête, j'serais plus dans le mal, sentimental. Quand tout s'enflamme, j'serais plus dans le mal, sentimental. Quand tout s'enflamme,
y'a des soirs on cherche la mort ou une meuf pour donner la vie. Puis y'a des jours où tout s'écroule sur les trucs qui étaient acquis. Alors on devient un peu méfiant, j'rêve plus comme un adolescent. J'donne plus ma force dans tous les sens. J'ai dû écouter tous les samples, tous les vinyles, tous les CD. Chaque compte j'paye en CB, madame la juge, j'suis inséré. Tu peux me rendre mes scellés, tu sais, nous on est des tombes. On aime pas trop quand faut les barres. Depuis petit peu j'suis à l'écart, j'suis dans la guerre, j'suis dans la war. Ouah, on cache nos sentiments, toujours sérieux comme sentinelle. Dis-moi pourquoi quand je mens, c'est toujours aux gens qui m'aiment. Ouais, ça y est, on est des grands, donc on ouvre des sociétés. Mais on loupe les rendez-vous parce que la veille j't'ai trop pété. Les cassos, la vie active, jamais on fait comme les autres. On s'en va au casse-pipe parce que nous on est des hommes. Ouais, mentalité chelou, nique sa mère, ça vient de chez nous. Nous on aime les grosses machines, pour la costume, mets un Zedou, un Z1000 ou un Z4. J'crois que la vie c'est que des étapes, donc faut faire ton équipe et garder la même qu'au départ. Nous on avancera groupé, pas de question pour pas douter. Fond de deuxième à 140, la poche réussit à la doubler.
J'ai grandi dans ma tête, j'ai perdu dans la fête. J'ai grandi dans ma tête. J'ai tout dit dans la tête, j'serai plus dans le mal, sentimental.
Quand tout s'enflamme,
j'serai plus dans le mal, sentimental.
Quand tout s'enflamme,
j'serai plus dans le mal, sentimental.
C'était Giorgio et PLK pour le titre Quand Tous en Flamme. On est de retour sur Radio G dans l'émission Génération Sport. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur internet via via le site www.radio-g.fr. On est ensemble donc jusqu'à 21h pour parler de l'actualité autour du club de basket féminin de l'UFAB 49, partenaire de cette émission. Donc on est avec Mathieu, je le disais, donc qui est responsable partenaire du club. Rapidement, peut-être après, c'est vrai que tu reviendras un peu sur son parcours, etc. Mais est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs en quoi consiste ton job à l'UFAB?
Oui, bien sûr. Alors c'est très vaste, hein, puisqu'il faut rappeler que l'UFAB est une association.
Ouais.
Et quand on enlève les joueuses professionnelles, les éducateurs, les coachs, etc., vous avez trois salariés et un alternant. Donc responsable partenaire, ça veut dire bien sûr que je m'occupe de tous les partenariats du club, mais au sein de l'UFAB, ça veut aussi dire gérer le déroulé d'un match de Coupe d'Europe, d'un match de LFB, ça veut aussi dire installer des tables dans le salon partenaire. Voilà, et plein de missions transverses. Voilà ce que c'est mon job à l'heure actuelle au sein de l'UFAB.
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
C'est vrai que je te laisse poser les premières questions.
Ouais, on va parler d'abord plus du côté sportif. Mm-hmm. Je sais que t'as pas forcément tout ce que la coach pourrait nous apporter en termes d'infos, tout ça, mais
bien sûr.
En règle, la saison, on est arrivé au sixième match. Actuellement, c'est une neuvième place. Une campagne d'Europe qui est plutôt bien partie. Il y a qu'une seule défaite, je crois. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est quoi le ressenti du club sur ce début de parcours?
On a une équipe qui se reconstruit. On en reparlera sans doute après, mais on a une joueuse qui est partie, qui attirait la lumière, qui s'appelait Alexis Peterson, qu'il a fallu remplacer. On a quatre nouvelles joueuses. Donc jusqu'à maintenant, si on regarde un peu le calendrier, le parcours il est plutôt bon. On a perdu finalement contre les gros, Basketland et l'Asvel. On a gagné contre des équipes que j'appellerais de notre niveau Landerneau Saint-Amand. Il y a juste eu le week-end dernier Charnay, qui est un match qu'on attendait puisque c'est le promu et qu'on a malheureusement perdu. Donc en LFB, on est finalement au même état que l'année dernière. La saison avait tardé à se lancer parce qu'il y a la Coupe d'Europe à gérer en même temps. Et tu le disais, la Coupe d'Europe, le parcours est plutôt bon à l'heure actuelle. On a deux victoires et une défaite contre Galatasaray qui n'est autre que le finaliste de l'édition précédente.
Une défaite d'un point.
Ouais, exactement, un match d'anthologie. Donc à l'heure actuelle, pas d'alarmisme particulier. Si on prend un peu de recul, je vais être caricatural, mais on a perdu contre les équipes face auxquelles on pouvait espérer des exploits, certes, mais contre de très bonnes équipes. Et à l'inverse, on a gagné contre des équipes de notre calibre. Donc c'est sur le fond plutôt positif, même si en effet il y a une 9e place à l'heure actuelle sur 12.
Et justement, depuis le match de Galatasaray, est-ce qu'il y a une évolution supplémentaire dans la façon que les joueuses ont envie de traiter leur saison? Parce que ce match-là, je pense que ça va être un match charnière pour beaucoup de choses cette année. Parce que quand on a vu l'envie qu'elles avaient sur le terrain d'aller chercher cette victoire, la façon qu'elles ont joué en défense, mais aussi en attaque, même dans la mentalité générale de l'équipe. Justement, est-ce que depuis ce match-là, malgré que les résultats sont pas forcément été là, il y a eu un nouveau déclic et ça repart encore plus fort?
Ouais, c'est un match en effet qui était important parce qu'on a montré qu'on pouvait jouer les yeux dans les yeux avec une énorme équipe européenne. Donc un déclic, oui, en quelque sorte. Tu parlais des efforts en défense. Je rappelle que notre coach, elle en parlera mieux que moi d'ailleurs, mais Aurélie Bonan, elle est détentrice du record de rebonds en LFB, hein, all time. Donc la défense, c'est un peu l'axe principal.
Ah, c'est son cheval de guerre.
De sa stratégie, voilà. Donc ouais, on reste une équipe qui est très bonne en défense, et je crois qu'à l'heure actuelle, en termes de défense, on est plutôt au tableau, on doit être top 4, il me semble.
Ouais.
Après, encore une fois, il faut remettre les choses dans le contexte. On avait l'année dernière Alexis Peterson, qui était une joueuse extraordinaire. Il y avait une certaine facilité, certainement, à lui donner le ballon et à les laisser faire parce que ça marchait très bien. Maintenant, son départ, il permet aussi à d'autres joueuses de s'exprimer. Je pense notamment à Lila Lacan, hein, qui a repris la main. Et en ça, les joueuses doivent en effet se responsabiliser, mais encore une fois, rien d'alarmant à l'heure actuelle. Il y a que 5 journées de championnat. On a joué déjà 2 grosses équipes. À Troyes d'ailleurs, j'oublie Villeneuve. Donc quand on a joué l'Asvel, Basketland et Villeneuve,
ouais, ça fait déjà.
Il y a déjà un gros morceau de passé. Ouais.
Le prochain sera Montpellier aussi, qui est
Montpellier, qui est pas mal,
qui est pas mal, hein.
qui varie beaucoup ouais. selon les saisons aussi.
Ouais, exactement. Ouais.
Et puis derrière, il y a quand même, oui, un déplacement à Bourges aussi,
entre autres. Le quatrième. Ouais,
bon, voilà. Mais bon, après, ce sera peut-être un peu plus simple.
À côté de ça, là, il y a quelques petits bobos. Enfin, en tout cas, un qui est assez important.
Ça va, c'est rassurant. On parle de Julie Wojtar, qui est l'une des recrues du club cette saison. Il y a en effet un déplacement la semaine dernière en Roumanie qu'elle n'a pas fait parce qu'il y avait une petite alerte au mollet. IRM ce matin, rien d'alarmant. La blessure quelque part tombe bien puisqu'on rentre dans une trêve. Et concrètement, on nous informe d'une durée de 2 semaines à peu près de... avant un rétablissement complet. Donc, vous voyez, on arrive au match de Montpellier dont on parlait tout à l'heure, qui a lieu le 19 novembre.
Ouais, parce qu'il y a du coup une trêve internationale qui ouais. arrive bah, très bientôt.
Mm-hmm. Puis du coup, de toute façon, sur les matchs européens, il y a toujours plus ou moins la possibilité de faire un turnover par rapport aux joueurs, aux joueuses américaines où mm-hmm. on peut n'en engager qu'une seule à la fois. Deux à la fois. Mm-hmm. Donc deux. Voilà, là, ça permet, c'est moins, heureusement, ça permet aussi qu'elle puisse se reposer à ce moment-là, bon, t'as vu de toute façon ce qui était annoncé, bon. Ouais, elle n'aurait pas joué, mais en tout cas, c'est rassurant que, voilà.
Ouais, ça fait partie des aléas, et puis, au-delà de son absence, en effet, le déplacement en Roumanie s'est plutôt bien passé. Donc, en effet, ça reste une joueuse importante, hein. Toutes les joueuses le sont. On reste un club de budget modeste et on n'a pas un effectif extensible. Maintenant, en effet, on a hâte qu'elle revienne, ouais.
Évidemment. Faustin, est-ce que t'as des questions à poser?
Ouais, moi je me demandais, on en parlait juste avant, la perte d'Alexis Pettersson, t'en parlais aussi. Mm-hmm. Est-ce que t'as ressenti, peut-être dans le jeu, toi qui suis les joueuses de plus près, quelque chose qui a vraiment changé dans leur jeu et dans leur manière de jouer finalement?
Ouais, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais en effet, elles prennent beaucoup plus facilement des responsabilités. Je parlais de Leïla, mais pas que, hein. Il y a d'autres joueuses qui prennent un peu plus de place que l'année dernière. Parce que, on peut le rappeler, hein, Alexis Pettersson, en 2 saisons à l'UFAB, elle venait d'Israël, elle était inconnue. Première saison, meilleure meneuse de LFB, meilleure marqueuse. Deuxième saison, meilleure marqueuse à nouveau du championnat. Et au passage, un record d'évaluation assez incroyable.
Meilleur match de l'histoire, peut-être.
Ouais, c'est ça, une évaluation à 50, record all-time.
Ouais, c'est ça, donc oui, voilà. On peut considérer ça comme ça. Ouais.
Donc, on avait une joueuse qui était incroyable. Son départ par la force des choses. Il y a une expression qui parle du vide, horreur du vide, j'ai plus l'expression en tête.
Oui.
Bah voilà,
Mais
concrètement, voilà ce qui se passe. Il y a un vide qui est laissé par Alexis Pettersson, qui est forcément pris par des joueuses parce qu'à un moment donné, bah, faut jouer au basket et faut y aller. Donc, ouais, les joueuses prennent, c'est ma perception, hein, la coach aura un avis beaucoup plus technique que le mien, mais de ma perception, je constate en effet que les joueuses prennent des responsabilités et c'est plutôt intéressant à voir, parce qu'on remarque que des joueuses sont capables de faire de très bonnes choses. Ouais, ça, quand on leur laisse le ballon et
avec les jeunes notamment qui tendent à se développer en plus, donc à devenir peut-être des futurs Alexis Pettersson à leur niveau.
Pourquoi pas, il y en a certaines, ouais.
La nature a peur du vide, c'est ça l'expression.
La nature a peur du vide, merci.
C'est ça. Cédric,
Clément, t'as peut-être une question par rapport à la saison ou...
Ouais, moi j'aimerais bien savoir si là à la 9e place vous semblez être à votre place ou si vous visiez plus haut que cette 9e place.
Non, bien sûr que non, on peut pas se contenter de la 9e place. Alors encore une fois, Aurélie est la mieux placée pour parler de ce sujet. Ouais. Ce que je peux dire moi à mon niveau, c'est que vous savez comment se passe le championnat de LFB, vous avez les 8 premiers qui jouent les play-offs, les 4 derniers qui jouent les play-down. Aucune joueuse à la fin de la saison, n'a envie de passer 6 matchs en play-down, à se demander si on monte, si on descend, ouais. avec la pression d'un club derrière qui veut bien sûr se maintenir. Donc la 9e place, non, on peut pas s'en satisfaire. L'objectif du club, ça reste de se maintenir. C'est aussi d'atteindre le top 8 qui permet de passer une fin de saison un peu plus sereine. Donc non, on peut pas se contenter de cette 9e place. Maintenant, encore une fois, je parle beaucoup de s'alarmer, mais c'est même pas le bon terme. On a joué 6 matchs à l'heure actuelle, dont potentiellement 3 favoris au titre du champion de France.
C'est que le début du championnat, de toute façon.
Voilà, la saison est longue, il y a la Coupe d'Europe qui mange pas mal d'énergie. Et si on fait un petit tour dans le rétro, l'année dernière,
bah, c'est ça, oui.
à la sortie pareil, de la Coupe d'Europe en quart de finale.
Et carburé.
Voilà, exactement. Donc pour le moment, on suit son cours. On aimerait bien sûr gagner les gros matchs. Hein. Je rappelle que l'ASVEL, on a été à peu de choses de les battre. Ouais. On menait 10 points à la fin du troisième quart-temps.
Alors que l'année dernière, c'était clairement une bête noire. Hein. C'était très mal passé.
Ouais, c'est la bête noire de pas mal de clubs. Ouais.
Oui, avec la Coupe d'Europe et tout.
Ouais, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que je me veux vraiment positif sur les résultats et je veux pas trop en faire parce que je vois comment les joueuses sont, je vois comment elles vivent entre elles. Encore une fois, à mon niveau, je suis pas le coach de l'équipe. Et à mon niveau, vraiment, ce que je constate, c'est que tout le monde s'entend bien, qu'il y a un groupe qui est très soudé. Ouais.
Cédric.
On va passer du coup plus à la partie qui te concerne. avant de revenir un peu sur tes différentes missions au sein du club, ta relation justement par rapport au sport, est-ce que t'en fais encore? Est-ce que t'en regardes pas mal ou
Alors,
ton,
ouais.
Ton parcours sportif plus jeune?
Mon parcours sportif. Alors moi, je suis issu du foot. J'ai fait beaucoup de foot. Alors je suis mayennais, supporter lavallois et je suis très fier de passer encore une nuit en tête de la Ligue 2.
Aïe, aïe, aïe.
Mon parcours, ouais, c'est principalement du foot. Pour faire mon petit CV de sportif modeste, j'ai joué notamment au Stade Mayennais. En Mayenne et un peu à Bouchemaine quand je suis arrivé, mais j'étais pas mal blessé, ils m'ont pas beaucoup vu les pauvres. Et puis pas mal de futsal, surtout où je jouais en arrivant à Trélazé, où j'ai pas mal joué en. Alors à l'époque ça s'appelait ADH, maintenant c'est R. Voilà. Et est-ce que je fais du sport encore? J'aimerais, mais j'ai des soirées. Vous voyez le mardi soir par exemple où je suis un peu occupé.
Pas le temps.
Faut que je le trouve quoi.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre justement l'UFAM quand l'opportunité se présentait?
Ouais, c'est un concours de circonstances. En fait, moi, j'ai toujours été très actif dans les clubs dans lesquels je jouais, que ce soit le futsal, le football. J'ai toujours été un bénévole sur lequel on pouvait compter pour monter des choses, monter des projets, faire parler des structures. Et il se trouve que dans mon précédent job, j'avais un collègue de travail qui s'appelait Brito Dessouza, qui était président de l'UFAB 49. Mmh. Et par un concours de circonstances, au moment où j'ai voulu quitter ma boîte, je l'ai appelé et il avait un poste. Donc c'est vraiment un concours de circonstances et quand on a ce genre d'opportunité, en général, faut pas trop traîner quoi.
Ouais, qu'est-ce qui t'a plu dans ce poste? C'est le challenge de participer à l'agrandissement, on va dire, à faire grandir ce club.
Ouais, et ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que j'avais en face de moi un club qui correspondait à mes valeurs.
Ouais.
L'UFAB, pour refaire un peu l'histoire, c'est un club qui est tout jeune, hein, qui a 20 ans, qui a été fondé par des parents. Et les parents, c'est encore eux qui gèrent le club à l'heure actuelle.
Ouais.
Donc il y a des valeurs qui sont de simplicité, que j'apprécie. Moi qui suis en contact avec les partenaires, c'est souvent le retour qu'on fait.
Ouais.
Qu'à l'UFAB, voilà, c'est pas bling bling, les gens se parlent normalement, il n'y a pas de matu-vu. Et vous qui venez de temps en temps au match, j'espère en tout cas que c'est ce que vous ressentez. Parce
non,
que c'est vraiment.
Vrai. Même entre partenaires, enfin, les différents partenaires qui sont là pour les soirées, que ce soit après les matchs ou les événements en partenariat. Je trouvais que les gens, en fait, on se connaît pas forcément, mais naturellement, ils vont venir discuter. Enfin, c'est. Exactement. On retrouve oui ce côté vraiment comme les associations gérées vraiment par des parents, enfin des.
Ouais, c'est ça. Et donc pour répondre à ta question, voilà, il y a deux choses qui m'ont plu. Il y a en effet le challenge et la deuxième partie, c'est que je suis responsable des partenaires. Vous, tu l'as dit tout à l'heure, donc à un moment donné, il faut que je vende quelque chose. C'est quand même beaucoup plus simple si je crois en
bien
ce
sûr
que je vends. Et en l'occurrence, à l'UFAB, je suis très fier de ce club et de ce qu'il représente.
Ouais, ouais, surtout que c'est particulier évidemment pour un club sportif. Cédric.
Justement, dans tes missions, ce que tu expliquais, c'est de faire la jonction entre les partenaires, le club, les bénévoles, le staff aussi, du coup.
Mm-hmm.
Donc, une journée type, en gros, c'est quand il y a un match, c'est donc en amont, envoyer tout ce qui est invitation,
des
choses comme ça.
C'est très complet. La journée type, malheureusement, elle n'existe pas, puisque ma journée type, elle dépend du mail que je vais recevoir le matin. Pour vous donner des sujets particuliers, ça peut être là en ce moment, il y a des règlements FIBA qui sont différents des règlements FFBB, enfin LFB plus particulièrement, et qui sont quelque part un peu contradictoires. Donc on doit adapter notre salle et l'organisation qu'il y a autour de la salle en fonction des compétitions dans lesquelles on joue. Et donc là, vous voyez, ça fait deux jours que je suis avec la FIBA en train de leur demander « Ok, vous demandez ça, nous on peut pas ». comment on peut s'organiser pour qu'on fasse les choses simplement.
C'est toi qui gères ce genre de truc.
Ouais, ouais, absolument. Donc, journée type, il y en a pas vraiment. Sur une journée de match, en revanche, ce que je peux te dire, c'est que les bénévoles se réunissent à 9h pour donner l'exemple du match de demain, hein, match de Coupe d'Europe contre Vilnius. J'évite de dire qui vit. le match contre Vilnius, les bénévoles ont rendez-vous à 9h. Moi, en général, je les rejoins à 9h parce que je suis aussi garant de la qualité de ce qu'on propose à nos partenaires. Donc, j'ai besoin de m'assurer que le panneau soit bien mis, j'ai besoin de m'assurer que sur les panneaux LED autour de terrain, les messages partenaires apparaissent bien, qu'il n'y ait pas de panne, que voilà. Donc, je suis garant de tout ça parce qu'en face, on a des partenaires qui donnent de l'argent, hein, si je veux caricaturer un peu le truc.
Ouais.
Donc, demain à 9h, je serai à la salle avec les bénévoles pour les aider à installer. Pour aller un peu plus loin dans mes missions, cette année, je stick aussi le parquet. Puisque la salle, on la partage avec un club qui s'appelle l'Étoile Angers Basket. Et chaque club a son stickage. Donc, c'est moi qui stick avec mes collègues. Demain midi. Et puis, à 17h, on va commencer à préparer le match plus concrètement. On a des étudiants qui viennent nous accompagner de la Wind Sports School.
Ouais.
Qu'il faut accueillir. On leur donne des missions, gérer les LED, gérer, voilà, différentes choses autour du match. Le shoot du milieu du terrain, par exemple.
Ouais.
Donc ça, c'est à 17h, vous voyez, on commence. Et puis finalement, mon job devient un peu plus calme à partir de 20h, même si je vois pas beaucoup les matchs entre nous, parce que pendant que le match se déroule, il faut que je m'assure que c'est tout bête, mais qu'il y a assez de coca dans le salon.
Ah ouais, c'est ça, c'est toi qui gères un peu
c'est ça.
Tout ça. Donc, Et sur le rôle des bénévoles, c'est hyper important, en fait. Un club comme Angers, enfin comme l'UFAB, qui est dans cet entre-deux, entre le professionnalisme, enfin la professionnalisation et quand même le côté associatif, c'est hyper important des bénévoles, et on s'en rend pas compte parce que c'est un club justement un pro.
Primordial les bénévoles. Je vais vous donner des exemples parce que moi-même je m'en rendais pas compte avant de rejoindre l'UFAB 49. Demain, match de Coupe d'Europe, vous avez des arbitres, des commissaires qui arrivent à Nantes à l'aéroport, et bien il faut aller les chercher, y compris quand l'avion arrive à 5h du mat.
Ouais.
Et là, vous êtes bien content en effet de trouver des bénévoles, des gens qui ont du temps, qui veulent en passer au sein du club pour vous accompagner. Sinon, voilà, on peut pas s'en occuper.
Ouais, puis même ce que tu nous as expliqué quand on s'était vu en début de saison pour renouveler le partenariat, c'est que c'est même pour des choses toutes simples. Mais heureusement que ces personnes sont là, parce que par exemple, tu nous expliquais un problème de véhicule pour une joueuse. Ben c'est un bénévole qui va s'occuper de trouver une solution, de voilà.
C'est exactement ça.
Tu pourrais pas toi tout seul, gérer tout ça, même s'il y avait plus d'employés salariés dans le club. Donc c'est des petites choses que de l'extérieur on voit pas forcément.
Exactement. Et pour rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, l'UFAB, oui, à l'heure actuelle est dans une phase de professionnalisation où vous verrez, je pense, d'ici un an, des mouvements au sein du club. Et pour autant, on ne pourra jamais se passer de bénévoles. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, je serais curieux de voir comment marchent des grosses structures dans le basketball et même dans le foot, qui sont des structures beaucoup plus importantes, parce qu'on peut pas tout professionnaliser.
C'est essentiel, les bénévoles.
Déjà, financer une saison, c'est un point qui est toujours compliqué.
Oui,
donc, s'il faut rajouter de la charge salariale.
Ouais, ça en fait partie, absolument.
En plus, on explose les budgets. Et là, ça peut être la mort d'un club très vite. Hein.
T'es au club depuis combien de temps, à peu près?
Alors, je suis arrivé en mars 2022.
Ouais.
Parce que t'avais pris la succession de Coralie qui.
Exactement, Coralie. Je sais pas si on l'avait reçue en
Elle était venue aussi
dans les studios.
Je crois en tant que traductrice. Ouais,
exactement.
Ah oui. D'accord.
Et du coup, pour revenir un peu sur sportif, est-ce que du coup, depuis cette période-là, est-ce que t'as un match particulièrement, pour revenir au terrain, qui t'a marqué ou enfin un moment incroyable, quoi?
La Roche-Vendée l'année dernière. Fin de saison dernière, la Roche-Vendée, je vois des têtes qui hochent sur la table. Ce match était assez incroyable. Pour nous, les planètes s'alignaient. C'est un match sur lequel, la veille du match, je vais voir le président, je lui dis, écoute, s'il y a un billet à mettre, c'est demain, on met les jeux de lumière. La salle était comble. C'était un derby. L'issue du match, elle est incroyable. J'en garde un très bon souvenir, alors que c'est une défaite quand même. C'est
oui, c'est ça qui est paradoxal, c'est une défaite.
C'est ça, mais
il y a la qualification derrière pour les playoffs.
Ouais,
enfin,
exactement. Avant ce match-là, pour les personnes qui nous écoutent et qui savent peut-être pas de quoi on parle, on avait donc deux équipes qui ne savaient pas si elles pouvaient, si elles jouaient l'Europe ou le maintien, ou les play-downs en l'occurrence.
C'est ça.
Le match se termine à 99-99 et on perd 108-106, il me semble, après la première prolongation. Dans une ambiance assez dingue parce que nos amis vendéens ont fait le déplacement aussi.
Bah oui, derby.
Voilà, une salle comble. Le salon partenaire pour l'événement, on avait tellement de partenaires qu'on a délocalisé dans une salle de gym du complexe
pour être
sûr d'accueillir tout le monde, comme pour le match de Galatasaray il y a deux semaines. Donc ouais, un souvenir assez incroyable à tout niveau.
Ouais, et puis ouais, c'est vrai que Galatasaray, apparemment c'était aussi quelque chose de très fort. On n'aura peut-être pas trop le temps d'en revenir parce que là
on l'avait déjà bien évoqué, mais oui, c'était fort en l'émission. Termes d'ambiance.
C'était assez exceptionnel.
Fou, ouais. Et
moi aussi pareil, match complètement dingue quoi.
Galatasaray, ouais. Bah, même chose. Toi j'ai hésité, mais La Roche c'était quand même particulier.
Ouais,
c'était quand même particulier.
Exactement. En plus c'est un derby, donc c'est toujours sympa. Mm-hmm. Et bah, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous dans cette émission de Génération Sport spéciale UFAB 49. On se retrouvera, j'ai envie de dire, avec une joueuse ou la coach le mois prochain.
Ou même des bénévoles.
Exactement. On verra ça.
Voilà, on va essayer de proposer pas mal de choses cette année.
Exactement. On va vous quitter, on va vous laisser avec la suite des programmes. Tout de suite après nous, c'est Imaginaire qui va prendre la suite. Et puis nous, on va vous dire à la semaine prochaine, ce sera Faustin qui sera à l'animation. Et puis bah voilà, on vous souhaite également une très belle soirée d'Halloween. Et puis surtout, on vous souhaite.
Allez les Bleus ce soir.
Allez les Bleus. Match
de la Coupe de la Ligue. Pas de la.
Ligue des Nations,
voilà.
Pour le football féminin. Ouais. Donc, on vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio G.
Smoking chaos, our shoulder blades kissed. I found you.
Radio G.